Bonjour, je suis Charlotte Champagne. Bienvenue dans un univers peuplé de curiosités, d'aventures et de partage de savoir. Vous êtes le genre de personne à avoir mille et une réflexions en même temps, à aimer les paradoxes, l'intrigue, parce que les histoires et les anecdotes, c'est la vie. L'idée ici est de raconter par épisode une story personnelle qui m'a interpellée et qui a pu vous arriver, et de l'analyser sous l'angle de la philosophie. Alors pourquoi la philo ? Parce qu'au-delà de son apparence farfelue et distante, la philo se retrouve partout dans notre quotidien. Mais surtout, elle est pleine de logique et de rebondissement. Alors mon ambition ici n'est autre que la transmission. Ne pas jeter les idées du passé qui nous semblent démodées, mais adopter un regard autre sur ce qui nous arrive, aussi ancien soit-il, qu'importe l'époque ou l'origine du philosophe. Alors si on essayait de détricoter nos péripéties sous l'angle de leur chef-d'œuvre.
Bonjour. Il y a 2 semaines, nous avions initié notre quête vers ce qu'était la morale et la dignité, au travers d'un événement qui m'avait troublée, où je me demandais d'où venait mon jugement moral face à une vidéo Instagram d'une jeune fille qui dansait de manière quelque peu dévêtue, avec une caméra fixée sur son postérieur. Sans refaire toute l'analyse, on avait conclu que cette danse de la joie, même dénudée, n'empiétait pas vraiment sur le concept kantien, de devoir traiter son corps comme une finalité. Dans le sens où cette jeune femme exerçait une danse de la joie, non pas pour obtenir quoi que ce soit, mais simplement comme une dévotion à la liberté, à la danse. Par ailleurs, mon sentiment négatif, ou comme dirait Hume, le sentiment de douleur à l'origine de ma désapprobation, n'avait sans aucun doute pas été suffisamment éclairé par ma raison. J'étais donc en quelque sorte restée bloquée au niveau de mes sentiments. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller fouiller dans d'autres registres afin d'appréhender l'origine de la morale par le biais d'une part de la généalogie et d'autre part de la biologie. Au-delà de l'histoire et de la culture, la biologie tente de fournir une explication à l'existence de la morale. En effet, l'origine de la morale serait également à chercher du côté de la biologie et plus spécifiquement dans l'aspect évolutionnaire de l'homme. Le fait d'aider une personne démunie, de ne pas tricher, de respecter ses promesses, etc., seraient des comportements intuitifs issus de la sélection naturelle qui seraient gravés en nous. Une thèse répandue, et notamment retenue par le philosophe évolutionnaire Stéphane Debout, serait celle selon laquelle les comportements moraux, ayant pourtant pour vocation de permettre la vie en société, ont été sélectionnés au fil du temps car ils étaient bénéfiques à l'individu lui-même. En effet, en agissant moralement, chaque individu serait davantage choisi comme partenaire de coopération. Plus largement, ceci sera en rapport avec la méritocratie. J'ai agi moralement, donc mon partenaire de coopération trouvera que je mérite d'être choisi afin d'effectuer d'autres formes de coopération et donc de survivre. Attention que la morale n'est pas pour autant désintéressée, mais disons que les bénéfices de mes actes seront supérieurs au coût de ceux-ci, donc supérieurs aux efforts fournis pour être moral. Stéphane Debout conclut en disant que, vu que les mêmes normes morales existent dans différentes sociétés, la morale ne peut pas s'expliquer exclusivement par la culture. Ainsi, la sélection naturelle aurait utilisé finalement la morale afin de favoriser le meilleur compromis entre l'égoïsme et la générosité. Mais même au niveau biologique, on comprend que le sens moral ne l'emporte pas toujours. Ceci vient de la complexité de nos modules cognitifs. Car par exemple, pour un criminel ayant agi de manière immorale, il s'avéra que d'autres préoccupations mentales, en compétition avec notre morale, aient dépassé en fait cette dernière. Alors quoi ? Mon jugement moral par rapport à cette danse serait donc intuitif, sur base d'enjeux de coopération et de mérite ? Et si on changeait notre casquette de biologiste pour celle de l'historien, afin d'y voir plus clair ? Pour rechercher l'origine des valeurs constitutives de la morale, c'est le philosophe Nietzsche qui va développer une généalogie de la morale. Cette généalogie ne se demande pas ce qu'est la morale, par essence, mais de qui provient la morale, c'est-à-dire quel type d'homme se cache derrière tel système de valeurs. Selon Nietzsche, la morale n'est ni immuable, ni donnée historiquement. Elle est le fruit d'un long processus évolutif et interprétatif. Son origine serait une création de l'homme, et non pas une création d'un dieu ou d'un esprit, et plus spécifiquement des volontés ou des instincts humains. Nietzsche va donc analyser les besoins physiques ou physiologiques qui ont conduit les hommes à établir ce qu'est le bon, le méchant ou encore le mauvais, et les évaluer en termes extramoraux, comme il dit. Donc c'est-à-dire, non pas en termes de bien, mal, vrai ou faux, mais en termes plus objectifs de santé, de maladie, de puissance ou d'impuissance. Contrairement à ce que Nietzsche va nous dire, Spencer et Darwin étaient eux d'avis que l'origine de la morale résidait dans le caractère altruiste et non égoïste d'une action. Cet acte est moral car il est altruiste. En tant que généalogiste, Nietzsche critique cette thèse car il découvre que les concepts de bon et de mauvais ne sont pas prioritairement moraux mais socio-économiques et affectifs. Le bon n'aurait pas pour jauge l'altruisme mais se réfère à l'appartenance à une classe supérieure, donc par exemple des nobles, des guerriers ou des riches, par opposition au dit mauvais qui se réfère à une classe inférieure, comme la plèbe, les malheureux, etc. Le sentiment de supériorité naturelle et spontanée des hommes dits « forts » ont créé en fait des valeurs par opposition à ceux qui les ont subis, les hommes dits « faibles ». Selon Nietzsche, l'histoire de la morale repose donc sur l'affrontement entre la morale des maîtres et des esclaves. Au fil de l'histoire, la caste sacerdotale va engendrer en fait l'insurrection des esclaves et renverser la morale aristocratique. Finalement, une nouvelle évaluation du bon et du mauvais, sur base du ressentiment des classes inférieures, va voir le jour. Donc de manière générale, les mœurs seraient issues d'un long processus de contraintes imposées aux hommes de devoir obéir. La morale des mœurs ne serait donc pas innée, mais issue d'un système de cruauté et d'obéissance, via le châtiment face à des actions dites non souhaitées par certains. Psychologiquement, il s'agit d'un long procédé mémotechnique qui aura pour conséquence qu'un homme obéira aux mœurs qui lui ont été dictées. Le critère de responsabilité, de justice, de faute serait donc issu d'un processus utilisant la souffrance, qui n'est donc pas innée, mais instituée, et que Nietzsche appelle d'ailleurs le processus d'élevage. Au fil de mes recherches dans l'histoire, je suis tombée face à un élément récurrent qui demeure déterminant dans notre morale actuelle. Il s'agit de la distinction qui est faite entre le corps et l'esprit. Il existe un ancrage profond de la pensée valorisant l'âme par rapport au corps. Et la complexité en fait de cette morale tient à la double nature de notre condition. On est corps et âme à la fois. Dans de nombreux écrits religieux, le corps est originairement le lieu de l'aliénation de notre esprit, par le manque de prise par rapport à notre corps, que ce soit dans le manque, dans la maladie, la fatigue, la douleur ou le vieillissement. Le corps est également souvent dévalorisé suite aux troubles d'attirance que notre corps ferait subir à notre esprit. Le philosophe Platon pose également l'idée d'une dignité supérieure de l'âme, qui devrait être libérée de tout élément matériel pour exprimer ses pensées. Selon lui, l'âme résonne le plus parfaitement lorsque ne vient pas la perturber ni audition, ni vision, ni douleur, ni plaisir. Mais quand au contraire, elle se concentre le plus possible en elle-même et envoie poliment promener son corps. Je me suis rendu compte que ce point de vue récurrent dans l'histoire est encore fortement ancré en nous actuellement. Pour ma part en tout cas, je sais que la valorisation de l'esprit et ainsi la dévalorisation de ce qui est lié aux représentations corporelles a quelque peu bercé mon éducation et mes croyances. Pour en revenir à la vidéo qui nous occupe, mon biais de jugement moral repose sur l'idée que, finalement, la joie peut tout aussi bien s'exprimer oralement, par la voix plus noble de l'esprit, et non pas par la voix d'un corps dénudé, n'est-ce pas? Mais sachant qu'une morale est un nombre de règles propres à un groupement, est-ce que le réel problème ne serait pas de vouloir imposer sa morale aux personnes extérieures à ce groupement? Ou également de vouloir un même concept de ce qu'est la dignité pour tous? En imposant à chacun la même morale, on se retrouve tel qu'aujourd'hui avec un questionnement où les gens applique une morale sans savoir pourquoi, car son application est dénuée de caractère volontaire, mais réside finalement dans un automatisme. Cela ne fait pas sens pour l'individu qui est ignorant du bien fondé ou de la légitimité de la dite morale. Par exemple, un podcast relatif à la pratique du lancer de nains m'a fait réaliser que la morale ne pouvait être appliquée de manière indifférenciée à des catégories de personnes. Autrement dit, les règles morales ne peuvent pas s'étendre d'une personne à une autre par le simple fait qu'entre ces personnes, il existe un même critère objectif d'appartenance. Je m'explique. Un homme adulte nain avait trouvé le job de ses rêves dans un bar où sa fonction était d'être lancé par d'autres personnes en échange d'une rémunération. Il adorait sa profession car il s'y sentait vivre, il se sentait entendu et partageait des choses avec les autres personnes. C'était son choix et il aimait ça. Mais un jour, un groupement représentatif des nains de France s'est opposé à cette pratique, la jugeant dégradante. Suite à de nombreux remous de la part de ce groupement, une loi interdisant cette pratique a été votée. Mais contrairement aux autres nains, ce premier n'y voyait aucun critère dégradant. Mais par contre, il a perdu son travail suite au vote de la loi interdisant cette profession. Le nain en question n'adhérait pas aux mêmes règles morales que ce groupement, mais a pourtant été contraint de suivre ses valeurs sur base du fait qu'objectivement, il faisait partie du groupement des dits nains. Cet exemple peut vous paraître cocasse, mais ce procédé est en réalité dramatique. Car en s'imposant à chaque individu d'un groupement de manière indifférenciée, la morale s'objective et devient alors une contrainte. L'appartenance à un système de valeurs morales devrait dès lors venir de chaque personne, par rapport à ses convictions et sa volonté intrinsèque, ce qui est une démarche finalement infiniment personnelle. Une des issues serait de toujours rester sceptique face à notre conscience morale, car peu importe que l'origine d'un jugement moral soit biologique, historique ou culturel, il faut vérifier que notre boussole intérieure ne soit pas tronquée par des automatismes relatifs à nos devoirs, nos inclinations naturelles ou encore nos intérêts. Cependant, est-ce qu'il ne nous manque pas une pièce essentielle du puzzle ? Vous vous en doutez, si. Et c'est le troisième et dernier volet explicatif de la saga Morale et Dignité, que nous aborderons dans 2 semaines, en analysant 2 éléments passionnants, qui sont la compétition féminine et la jalousie. Je vous retrouve donc dans 2 semaines, sans faute, pour clore le dernier volet de cette saga, en espérant qu'à son issue, la morale n'ait plus de secret pour nous.